Une vie de méditation. Souvent, nous aimons penser qu'en ajoutant simplement la méditation à notre emploi du temps quotidien, les effets de celle-ci imprégneront tout, sans que nous ayons vraiment besoin de ne rien faire d'autre. Ajoutez simplement la méditation aux ingrédients de votre vie, et cela transformera tous les autres ingrédients. C'est ce que nous voudrions penser, mais cela ne fonctionne pas de cette manière. Vous devez reconfigurer votre vie pour qu'elle constitue un bon endroit dans lequel la méditation pourra s'infiltrer, parce que certaines activités, certains états d'esprit ne sont pas un sol fertile. Ils sont comme du roc. Ils résistent à toute influence de la méditation. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous êtes un méditant, vous devez également examiner la manière dont vous vivez, vos activités quotidiennes. Regardez si vous créez un environnement propice dans lequel la méditation peut prospérer et se répandre. Autrement, la méditation est simplement coincée dans les fissures entre les rochers, ici et là, et elle ne peut pas vraiment imprégner grand-chose. Dans le canon, il y a un enseignement sur les 5 principes qu'un nouveau moine devrait garder à l'esprit. Ces principes ne s'appliquent pas seulement aux nouveaux moines, mais également à quiconque veut mener une vie dans laquelle la méditation peut s'infiltrer et imprégner toute chose. Le premier principe est la vertu. Assurez-vous que vous restez fidèle à vos préceptes. Dans le cas des moines, ceci fait évidemment référence au Patimokkha. Dans le cas des laïcs, cela fait référence aux 5 préceptes, et occasionnellement aux 8. Lorsque vous observez les préceptes, vous observez des principes fermes dans votre vie. Le Bouddha a décrit l'observation des préceptes comme un don, à la fois envers vous-même et envers les gens autour de vous. Vous protégez la vie des autres, leurs biens, leur connaissance de la vérité. Vous les protégez en ne vous saoulant pas. Vous les protégez en ne vous engageant pas dans des relations sexuelles illicites. Et lorsque ces principes deviennent des préceptes, en d'autres termes, des promesses envers vous-même, que vous observez en toutes circonstances, le Bouddha dit que vous offrez alors une protection illimitée, une sécurité illimitée aux autres êtres, et vous avez votre part de cette sécurité, vous bénéficiez vous-même d'une partie de cette protection. Donc, les préceptes créent un environnement dans lequel il y a plus de protection. Lorsqu'il y a plus de protection, il est plus facile de méditer. En même temps, les préceptes favorisent une attitude de don. Vous vous rendez compte que pour que vous soyez vous-même heureux, vous devez donner. Lorsque vous observez cette attitude, vous trouvez qu'il est plus facile de méditer, parce que trop souvent, les gens viennent à la méditation avec la question « Qu'est-ce que je peux en tirer ?» Mais si vous êtes habitué à pratiquer le don et à voir les bons résultats qui résultent de la pratique du don, alors il est plus probable que vous allez vous demander « Que puis-je donner à la méditation ? Qu'ai-je besoin de donner pour que de bons résultats apparaissent ?» Avec cette attitude, vous êtes plus disposé à offrir votre temps et votre énergie selon des modalités que vous n'auriez pas été disposé à pratiquer auparavant. Le deuxième principe qui permet de créer un bon environnement pour la méditation est la retenue des sens. En d'autres termes, vous ne faites pas seulement attention à ce qui sort de votre esprit, vous faites également attention à ce qui y entre. En termes des choses que vous regardez, des choses que vous écoutez, sentez, goûtez, touchez, et auxquels vous pensez. Faites attention à ne pas vous focaliser sur des choses qui vont susciter l'avidité, la colère ou l'illusion. Si vous ne faites pas attention lorsque vous regardez, lorsque vous écoutez, il est très difficile de faire attention à vos pensées, parce que les pensées sont tellement plus subtiles. Cela ne signifie pas que vous vous déplacez avec des œillères ou des bouchons dans vos oreilles. Cela signifie simplement que vous êtes habile dans la manière dont vous regardez les choses, habile dans la manière dont vous écoutez. si vous savez que quelque chose a tendance à provoquer le désir dévorant ou la colère, apprenez à le regarder d'une manière qui contrebalance le désir dévorant, contrebalance la colère. En d'autres termes, si quelque chose apparaît attirant, vous recherchez son côté non attirant. Si quelque chose apparaît non attirant, vous recherchez son côté attirant. Comme Adjani le dit, soyez une personne qui possède deux yeux, pas seulement un. C'est la raison pour laquelle nous récitons ce passage sur la contemplation du corps. Il ne nous dit pas de ne pas regarder le corps. Il nous dit de regarder plus attentivement le corps. Regardez les parties qui ne sont pas attirantes pour compenser le point de vue partial qui consiste à se focaliser uniquement sur quelques détails attirants ici et là et qui tente à occulter tout le reste afin de susciter le désir dévorant. Après tout, le corps n'est pas ce qui produit le désir dévorant, c'est l'esprit qui produit le désir dévorant. L'esprit commence à se languir de ressentir le désir dévorant et donc il sort à la recherche de quelque chose qui constitue une incitation au désir dévorant, et il se saisit de n'importe quel petit détail qu'il peut trouver, même lorsque ce détail est entouré par toutes sortes de choses malpropres. Donc, surveillez ce qui sort de l'esprit et ce qui y entre. Pour les laïcs, cela signifie faire attention aux amis que vous fréquentez, aux magazines que vous lisez, aux émissions de télévision que vous regardez, à la musique que vous écoutez. Faites très attention à la manière dont vous regardez ces choses, à la manière dont vous écoutez ces choses. Après un certain temps, vous découvrez qu'il ne s'agit pas tant de vous limiter que d'apprendre à voir les choses plus attentivement, plus complètement, parce que vous voyez les deux aspects de ce qui auparavant semblait être uniquement attirant, ou uniquement repoussant. Cela demande un certain effort. Vous devez être plus énergique en surveillant la manière dont vous regardez et dont vous écoutez. Mais la récompense, c'est que l'esprit est alors en bien meilleure forme pour méditer, parce que vous ne le remplissez pas avec toutes sortes de détritus, de poisons ou de cochonneries qui vont lui faire du mal, l'affaiblir ou se mettre en travers du chemin. Donc, lorsque vous vous asseyez pour méditer, si vous n'avez pas fait attention à ce qui a pénétré dans votre esprit ou à ce qui en est sorti, vous découvrez que c'est comme si vous deviez nettoyer une cabane qui n'a pas été entretenue depuis un an. Il y a tellement de détritus à l'intérieur que vous passez presque l'heure tout entière à la nettoyer, et ensuite vous vous rendez compte qu'il ne vous reste plus que 5 minutes pour être vraiment au calme. Donc, conservez l'esprit propre dès le début, tout le temps. Ne laissez aucun détritus pénétrer par la porte ou par les fenêtres. Si des détritus pénètrent, laissez-les ressortir tout de suite. Ne les ramassez pas. De cette manière, vous trouverez que vous disposez d'un endroit beaucoup plus agréable pour vous asseoir et vous établir rapidement lorsque vous créez votre chez-soi pour la méditation. Le troisième principe qui permet de créer un bon environnement pour la méditation est la retenue dans votre conversation. Lorsque je suis resté pour la première fois auprès d'Ajahn Fuang, il m'a dit que la leçon numéro 1 en matière de méditation consistait à conserver le contrôle de sa bouche. En d'autres termes, avant de dire quoi que ce soit, demandez-vous « Est-ce nécessaire ? Est-ce bénéfique ? » Y a-t-il une bonne raison pour dire ceci? Si oui, alors allez-y et dites-le. Sinon, alors restez silencieux. Ainsi qu'il le disait, si vous n'êtes pas capable de contrôler votre bouche, alors il n'y a aucune chance que vous arriviez à contrôler votre esprit. Et lorsque vous prenez l'habitude de vous poser ces questions, vous découvrez qu'il y a très peu de conversations qui sont vraiment nécessaires. Si vous êtes au travail et que vous avez besoin de parler à vos collègues afin de créer une bonne ambiance sur votre lieu de travail, cela est considéré comme parole nécessaire. Mais souvent, le discours de type lubrifiant social va au-delà. Vous commencez à ne pas faire attention, vous vous laissez emporter par vos paroles, et cela devient du bavardage inutile, ce qui ne constitue pas seulement un gaspillage d'énergie, mais également une source de danger. Il y a tellement de lubrifiants que cela démolit tout. Souvent, les choses que les gens disent et qui causent le plus de mal sont celles qu'ils disent lorsqu'ils permettent à tout ce qui entre dans leur esprit de ressortir par leur bouche sans aucune retenue. Maintenant, si observer ce principe signifie que vous allez acquérir la réputation d'être une personne silencieuse, eh bien, c'est très bien ainsi. Vous découvrez que vos mots, si vous faites attention à les utiliser seulement avec parcimonie, commencent à acquérir plus de valeur. En même temps, vous créez une meilleure atmosphère pour votre esprit. Après tout, si vous bavardez constamment tout au long de la journée, comment allez-vous arrêter le bavardage mental lorsque vous vous assiérez pour méditer? Mais si vous développez cette habitude de surveiller votre bouche, alors cette même habitude s'appliquera à la méditation. Toutes ces bouches à l'intérieur de votre esprit commenceront à se calmer. Le quatrième principe consiste, pour les moines, à fréquenter les endroits sauvages, à quitter la société, pour trouver un endroit silencieux où rester seul, afin de pouvoir voir votre vie et votre esprit dans leur contexte d'ensemble, afin que ce qui se passe dans votre esprit puisse ressortir avec plus de relief. Ce principe s'applique également aux laïcs. Essayez de trouver autant de solitude que vous le pouvez. C'est bon pour vous. Lorsque les gens éprouvent des difficultés à vivre dans la solitude, cela montre qu'il reste beaucoup de travail inachevé à l'intérieur. Donc, créez-vous un petit endroit sauvage chez vous. Éteignez la télévision, éteignez les lumières, autorisez-vous à être seul, sans trop de distractions. Dites à tout le monde chez vous que vous avez besoin d'un petit peu de temps seul, de façon régulière. Lorsque vous faites ceci, vous découvrez que des choses enfouies dans les profondeurs de votre esprit remontent à la surface. C'est seulement lorsqu'elles remontent à la surface que vous pouvez les traiter. Lorsque vous êtes ainsi seul, sans beaucoup d'intrants extérieurs, il est naturel que l'esprit tende à rester plus facilement avec la respiration. Au début, il se peut qu'il y ait beaucoup de bavardage mental, mais après un certain temps, vous en avez assez. Vous préférez simplement rester silencieux. En même temps, vous échappez à l'influence des pensées et des opinions des autres. Vous devez vous demander, que croyez-vous vraiment? Quelles sont vos opinions? Qu'est-ce qui est important pour vous lorsque vous n'êtes pas influencé par les opinions des autres? Ceci nous conduit au cinquième principe, le développement de la vue juste. La vue juste comporte deux niveaux. D'abord, il y a la croyance dans le principe du karma, que ce que vous faites a vraiment des conséquences, et que vous êtes vraiment celui qui fait ces choses. Ce n'est pas une force extérieure quelconque qui agit à travers vous, pas les astres, ou un dieu, ou une quelconque force du destin. Vous prenez des décisions, et vous avez la capacité de le faire de façon habile ou non, en fonction de votre intention. Il est important de croire en ce principe, parce que c'est ce qui donne plus de force à votre vie. C'est une croyance qui vous rend plus fort, mais elle implique aussi des responsabilités. C'est la raison pour laquelle vous devez faire plus attention à ce que vous faites. C'est pourquoi vous ne pouvez pas être négligent. Lorsque vous faites attention à vos actions, il est plus facile de faire attention à votre esprit lorsque vient le moment de méditer. En ce qui concerne le second niveau de la vue juste, le niveau transcendant, cela signifie voir les choses selon les termes des quatre nobles vérités. Le stress et la souffrance, la cause du stress et de la souffrance, la cessation du stress et de la souffrance, et la voie de la pratique qui mène à cette cessation. Regardez simplement l'ensemble de vos expériences. Au lieu de les diviser selon les schémas habituels de moi et de non-moi, cherchez simplement à voir. Où y a-t-il de la souffrance? Où y a-t-il du stress? Qu'est-ce qui les accompagne? Que faites-vous qui engendre ce stress? pouvez-vous lâcher prise de cette activité? Et quelles qualités avez-vous besoin de développer? De quoi avez-vous besoin de lâcher prise afin de lâcher prise du désir ardent, de l'ignorance qui sous-tend le stress? Lorsque vous abandonnez le désir ardent, pouvez-vous être conscient de ce qui se passe? Trop souvent, lorsque nous laissons tomber un désir ardent, c'est simplement pour en ramasser un autre. Pouvez-vous devenir de plus en plus conscient de l'espace qui existe entre les désirs ardents et élargir cet espace? À quoi cela ressemble-t-il d'avoir un esprit sans désir ardent? Selon le Bouddha, il est important de voir les choses de cette manière, parce que si vous identifiez tout selon les termes de votre soi, comment pouvez-vous être capable de comprendre quoi que ce soit pour ce que c'est vraiment? Si vous vous accrochez à la souffrance comme étant votre soi, comment pouvez-vous comprendre la souffrance? Si vous la regardez simplement en tant que souffrance, sans coller dessus cette étiquette de « moi » ou de « mien », vous pouvez commencer à la voir pour ce qu'elle est et apprendre comment la relâcher. Si c'est votre soi, si vous vous accrochez à cette croyance que c'est votre soi, vous ne pouvez pas en lâcher prise. Mais regarder les choses selon les termes des quatre nobles vérités vous permet de résoudre le problème de la souffrance une fois pour toutes. Donc, commencez à examiner votre vie tout entière sous cet éclairage. Au lieu de rejeter la responsabilité de votre souffrance sur les autres à l'extérieur, regardez ce que vous faites et qui contribue à cette souffrance, et attachez-vous d'abord à traiter cela. Lorsque vous développez cette attitude dans la vie quotidienne, c'est beaucoup plus facile de l'appliquer à la méditation. Vous créez un environnement où rester fidèle à la noble voie devient de plus en plus logique. Donc, voilà les facteurs qui créent un environnement propice à la méditation, que vous soyez un nouveau moine qui vit ici au monastère ou un laïc qui vit à l'extérieur du monastère. Vous voulez rester fidèle aux préceptes, exercer la retenue sur vos sens, pratiquer la retenue dans votre conversation, créer des endroits silencieux et isolés pour vous-même, et développer la vue juste. Lorsque vous suivez ces principes, ils créent un environnement plus propice, qui permet à la concentration de se développer, de prospérer. En même temps, ils créent un environnement plus réceptif, qui permet au résultat de la concentration de se répandre dans toutes les directions. De cette manière, votre pratique, plutôt que d'être introduite de force dans les fissures d'un environnement hostile et étranger, dispose de l'espace nécessaire pour prendre racine, grandir et transformer tout ce qui se trouve autour.